RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, vous êtes au rendez-vous des GG, tant mieux, nous sommes ensemble jusqu'à midi, avec vous au 32-16 bien sûr. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Les grandes gueules avec aujourd'hui l'enseignante Barbara Lefebvre, bonjour.
Bonjour les amis.
Nous sommes avec Abel Boyi, l'éducateur, bonjour mon cher Abel.
Salut les amis.
Et on attend Antoine Dier, s'il ne saurait tarder à arriver.
Mais il vient de loin.
Dunkerque.
Il faut quand même le rappeler, il va jusqu'en voiture, souvent à la gare de Lille depuis Dunkerque, ensuite il prend un train, il arrive Gare du Nord, il traverse Paris, donc il y a plein d'embûches. Là, c'est le métro, je crois que c'est la ligne 8 qui pose problème.
Quel
ce
aventurier.
Matin. Mais oui, c'est un aventurier. Ouais. C'est un peu Koh-Lanta pour lui, chaque fois venir ici.
De quoi va-t-on parler aujourd'hui dans les GG, dans les grandes gueules? Est-ce qu'on doit installer des caméras dans les écoles, en particulier à Paris, pour surveiller ce qui se passe dans les couloirs, dans les établissements, et surveiller le périscolaire aussi? Les carburants, la France est le seul pays à ne pas faire de ristourne. Est-ce que le gouvernement va pouvoir tenir? Est-ce que vous trouvez ça scandaleux? L'Allemagne, le pays voisin, nos amis d'Outre-Rhin l'ont fait. Surtout qu'on nous annonce sûrement un carburant qui va rester au-dessus des 2 euros jusqu'à l'été, probablement, selon certains experts pétroliers. En attendant, tiens, on va revenir sur le gouvernement, plutôt une reculade concernant le 1er mai.
Depuis que j'ai pris mes fonctions, j'ai toujours favorisé le dialogue social. C'est dans cet état d'esprit que le Premier ministre a décidé de ne pas demander la convocation de la commission mixte paritaire pour laisser le temps au dialogue social de construire des solutions équilibrées.
Je trouve que ça traduit, au-delà de la mesure elle-même, ce fait que ce gouvernement ne peut rien faire, ne fait rien, ne sert à rien, n'a aucune autorité, a peur de son ombre.
Celui que vous avez entendu en premier, c'est le ministre du Travail, Monsieur Farandou. Celui que vous avez entendu en second, c'est Jean-Philippe Tanguy, le député du Rassemblement National, à propos du gouvernement qui ne sert à rien.
Oui, le gouvernement a finalement cédé au syndicat, à Madame Binet de la CGT, et a donc renoncé à autoriser le travail de salariés le 1er mai dans les boulangeries, les pâtisseries, chez les bouchers, les fleuristes. C'était sur la base du volontariat. C'était pour mettre fin à des concurrences assez incroyables. Par exemple, le 1er mai, eh bien, on peut travailler dans les fast-foods et dans les restos quand on est salarié, mais pas dans une boulangerie. D'ailleurs, Gabriel Attal, le patron du Parti Renaissance qui portait ce projet, dit « c'est quand même dingue qu'en 2026, des grandes surfaces ou des chaînes de fast-food peuvent ouvrir le 1er mai, mais pas les fleuristes ou les boulangers indépendants qui le veulent. » On voit que ce recul du gouvernement montre la faiblesse d'un Sébastien Lecornu qui n'a pas de majorité et qui tremble à l'idée d'être censuré par les socialistes Olivier Faure et par les SMS envoyés par Sophie Binet. On en est là. Donc c'est vrai que c'est inquiétant au-delà du 1er mai, parce qu'on se dit, mais il reste encore un an de mandature d'Emmanuel Macron, un an peut-être de gouvernement Lecornu, donc il va rien se passer sur un dossier qui est quand même pas un dossier très compliqué, le 1er mai. Même sur ça, on n'arrive pas à avancer alors qu'il y avait un consensus. Le sujet remonte il y a un an, souvenez-vous, on en parlait déjà il y a un an. Alors là, Monsieur Farandou nous dit on va faire le dialogue social, et pourquoi il l'a pas fait depuis un an?
C'est toujours la bonne formule, le dialogue social.
En général, quand on commence à dire le dialogue social, c'est qu'on est en train d'enterrer un projet.
Les réformes sont possibles, mais dans le respect et avec une méthode. Voilà ce que l'on dit au gouvernement.
Et nous accueillons Antoine Diers.
L'arrivée d'Antoine Diers. Bonjour mon cher Antoine.
On va ouvrir son micro.
Du métro 8 ralenti. Je suis allé au bout de moi-même et désolé pour ce petit retard.
Il a plus un pet de sec et d'air, la mienne. Vas-y,
je suis toujours embêté d'arriver en retard, donc je me mets la pression. Oui, mais... voilà.
Alors, qu'est-ce que tu penses de cette décision du gouvernement,
monsieur
Abel?
Je suis triste de vivre dans un pays qui est en réalité dirigé par les syndicats et les hauts fonctionnaires où la parole du peuple ne compte plus. Quand on écoute les syndicats, le 1er mai, c'est il faut honorer l'obtention d'un acquis social. Moi, je pensais que lorsque l'on obtenait un acquis social, c'était pour avoir la liberté. Et je suis désolé, les syndicats ne représentent pas 100% des salariés. Et comme ça a très bien été dit, des grandes surfaces peuvent être ouvertes et les petits commerçants, les petits artisans prennent des sanctions s'ils osent travailler le 1er mai dans un pays déjà où on se plaint qu'il n'y a pas assez de gens qui travaillent. On empêche à des travailleurs de vouloir travailler. Donc je trouve que c'est pathétique et la lâcheté du gouvernement, un gouvernement de lâche, remettre ça à dans un an alors que c'est un sujet qui est sur la table depuis un an. Donc en gros, débrouillez-vous après la prochaine présidentielle et circulez, il n'y a rien à voir.
Barbara.
Écoutez, je suis effarée. Je me demande vraiment, parce que ça va faire une bonne trentaine d'années qu'on est dans ce système, depuis que Juppé et Chirac ont baissé leurs pantalons devant les troupes dans les rues, voilà, sur des réformes. On peut contester une réforme. Moi, ça me pose aucun problème qu'il y ait des manifestations qu'on conteste une réforme. Ce qui me pose un problème, c'est qu'en face, il y a des dirigeants qui ont été élus par une majorité de Français qui sont pas capables de tenir leur ligne. Si demain, c'est la gauche qui gouverne, elle fera ses réformes, il y aura des manifs, elle tient ce qu'elle a promis. Si c'est la droite, idem. Mais en fait, on a une droite, parce que la gauche, en général, elle tient toujours ce qu'elle dit. Alors elle, de toute façon, elle peut pas avoir les gens dans la rue, puisque en général, règle générale, les syndicats sont avec elle, sauf quand évidemment ils décident de lui savonner la planche, comme ça a été le cas parfois avec Hollande. Mais grosso modo, la gauche, quand elle gouverne, elle a plutôt les syndicats avec elle. La droite s'est systématiquement laissée impressionnée, notamment la plupart du temps avec des arguments purement moraux, hein, c'est-à-dire c'est la gauche morale, on ne peut pas, les acquis sociaux, on s'est battu, on a versé du sang pour le 1er mai, etc. Donc ces gens sont toujours dans l'invective morale et on a une droite qui à chaque fois se rabougrit, a peur, se laisse emporter par le chantage. Donc aujourd'hui, on a un Premier ministre qui a le pistolet sur la tempe. D'un côté, il a Monsieur Faure, de l'autre, il a Madame Binet. Madame Binet qui a quand même été carrément dans la menace. Elle a dit, ça va se payer très cher. Je sais pas ce qu'elle a voulu dire par là. Peut-être que faudrait qu'elle nous explique l'implicite, parce que Madame Binet n'est que la représentante de la CGT. Quant à Monsieur Faure, il a carrément dit, je vais censurer. Et comme on le dit ici, et comme je l'ai toujours répété, Monsieur Lecornu n'a qu'un seul objectif, et il a été mis là pour une seule raison. Venir. Garder la place au chaud pour les macronistes, pour que un macroniste succède à Macron, parce que c'est ça leur objectif, c'est de réussir à finir par faire leur plateforme pour avoir leur candidat unique, et vous verrez qu'on l'aura, ce sera Philippe ou d'autres, mais ça sera le petit cénacle macroniste qui...
Mais il y avait une majorité à l'Assemblée pour faire passer ce texte.
Voilà.
Donc, je comprends même pas cette reculade. Puisque à part les LFI et le PS, les autres faisaient passer le texte.
Mais parce que quand Olivier Faure te dit, si tu le fais, je te fais une motion de censure.
Oui, mais la censure ne peut passer que s'il a le RN. Mais non, je rappelle quand même l'équation, c'est que la gauche ne peut faire tomber le cornu que si le RN vote avec elle. Ben, sinon, le cornu, il est sauvé.
Oui, mais comme
donc la censure ne... Donc c'est double lâcheté. C'est-à-dire que Sébastien Lecornu n'a même pas voulu tenter le truc, n'a pas même pas voulu aller au bras de fer.
Que les Français étaient majoritairement pour.
Oui, voilà, bien sûr. En plus, faut rappeler quand même, sur la base du volontariat, salaire multiplié par deux, jours rattrapés. Non, mais tout ça, ces gens-là, en plus, pour la plupart de certains de ces syndicats qui sont prêts à sacrifier des jours fériés, parce qu'il y a des jours fériés qui les dérangent, parce que c'est dans le calendrier catholique, d'accord. Par contre, le 1er mai, sacré. C'est le culte de l'aide suprême, on est revenu au calendrier révolutionnaire. Non, mais ils sont capables de sacrifier la Pentecôte ou l'Ascension. Moi, je m'en fiche, je suis pas concernée, je suis pas chrétienne. Mais ils seraient capables de sacrifier l'Ascension et la Pentecôte pour défendre le 1er mai.
Allez travailler, ça les
enlèverait.
Non, mais, pardon, c'est la gauche et les syndicats contre les Français. C'est fascinant. C'est plus la fête du travail, c'est la fête des syndicats. C'est-à-dire que c'est leur veau d'or, leur totem. Les Français disent massivement qu'ils voudraient avoir la possibilité de travailler, payer double dans ces temps où l'essence est chère, où tout est compliqué, et on pourrait faire une double paye un jour pour ceux pour qui c'est difficile d'aller au resto, d'aller au cinéma. Et c'est la gauche et les syndicats qui vont dire non à ces gens. Donc ça déjà, je suis fasciné. La gauche a oublié le peuple. Les syndicats ont oublié les travailleurs. C'est ahurissant. Ensuite, deuxième aspect des choses, vous l'avez tous dit, lâcheté du gouvernement, on nous avait promis un macronisme réformateur, on n'a rien vu là en 9 ans, rien du tout. Moi maintenant, j'aurais espéré que les syndicats patronaux, les syndicats d'artisans aillent un peu au bras de fer et se disent « Ok, on va ouvrir, on va faire travailler et on fait une cagnotte solidaire pour payer tous ensemble les amendes de tous ceux qui seraient sanctionnés. Eh ben pardon, mais là on commencerait à entrer dans le dur et j'aimerais bien que
désobéissance
c'est ça. Exactement, bravo.
J'appelle au boulanger, au fleuriste d'ouvrir le 1er mai.
Bah oui, qu'ils ouvrent et puis on fera appel à la solidarité des Français s'il faut payer les amendes.
Il y a des inspecteurs du travail qui vont être envoyés pour vérifier. Mais,
alors et j'ai regardé pendant longtemps, ils étaient pas envoyés.
Mais là maintenant
pendant des années, ils n'étaient pas envoyés. Et là, depuis 2-3 ans, ils ont décidé d'y retourner. Le ministre du Travail pouvait aussi faire. Et les gars, 1er mai pour vous aussi. Hein. Restez tous à la maison,
les
inspecteurs.
Souviens-toi, quand Catherine Vautrin est ministre du Travail, elle expliquait qu'elle ne pouvait pas empêcher les contrôles. Ouais. Donc on se demande bien à quoi ça sert. Elle ne pouvait pas empêcher ses fonctionnaires d'aller contrôler. Et donc, elle demandait simplement la mansuétude. D'ailleurs, Gabriel Attal a dit il demande au gouvernement de donner instruction aux administrations et aux inspections de ne pas sanctionner les artisans qui feront le choix d'ouvrir le 1er mai prochain.
Et ben voilà.
Donc,
on
rappeler,
paiera les amendes pour les autres.
Rappelez juste un petit chiffre. Mm-hmm. En France, le taux moyen de syndicalisation, c'est 10%.
Voilà,
18% dans la fonction publique, 7,8% dans le privé. 10% des Français sont syndiqués et 100% des Français subissent les blocages d'une petite minorité de syndicalistes politisés et à l'extrême gauche en plus, parce qu'on les a vus depuis quelques années maintenant, c'est carrément devenu des ultra-radicaux sur certains sujets. Donc, voilà, on est aux mains de ces gens-là, c'est vraiment gravissime.
On va aller dans les deux sèvres, parce qu'il y a David qui est avec nous, et il est président du collectif des artisans commerçants de France. Bonjour David.
Oui, bonjour les grandes gueules. Merci de m'inviter, de me donner la parole.
Je vous en prie, qu'est-ce que vous pensez de la reculade, alors dites-moi.
Ben, c'est un scandale que le gouvernement recule avec tout le travail qui a été fait en amont pour rentrer dans le dialogue avec les salariés. Enfin, faut savoir que le droit d'ouvrir, on l'a des boulangeries, mais une boulangerie qui ouvre sans ses salariés, c'est pas possible, surtout quand dans les zones touristiques. Nous, on favorise l'emploi sur le volontariat. Mmh. Donc, les salariés ont toujours été contents sur le mois de mai de toucher une journée double de salaire.
Mmh.
Donc voilà. Donc moi, j'ai des boulangers qui sont inquiets pour le 1er mai. Ils ont plein de commandes. Comment ils vont faire? Alors même, je vais vous donner un cas particulier. Le boulanger qui ouvre, que sa femme est salariée, sa femme n'a pas le droit de travailler. Mais on marche sur la tête dans ce pays. Vous savez, la semaine dernière, on a été invité par Gabriel Attal, justement, parce qu'on a travaillé avec lui. Je le remercie vraiment de son engagement auprès des artisans, parce qu'il a fait vraiment un effort. Je suis pas son commercial, mais franchement, il a fait beaucoup pour nous. Voilà, donc il nous a écoutés, il nous a convoqués. Alors, j'invite tous les partis politiques, nous on est apolitiques, j'invite tous les partis politiques à venir dans nos fournils, à venir nous rencontrer, nous le CACF, on est bénévoles. Vous voyez, quand on va à Paris, on paye notre train, on défend les artisans bénévolement. Mais la colère va monter, je vous le dis, parce que depuis cette nuit, on est en train de s'organiser. Le 2 mai, je vous garantis qu'à Paris, ça va bouger.
Il y a les
pêcheurs, on monte à Paris le 2 mai, on tous à Paris, les pêcheurs derrière... l'Union des pêcheurs de France, là, et on va manifester notre colère avec les routiers, les taxis, on invite tous les consommateurs à nous suivre.
Parce que, en fait, David, c'est une accumulation de problèmes, en fait, en ce moment.
Là, en fait, nous, on a trop de charges, on a trop de normes, trop de contraintes, trop de pression, on nous fait chier avec les contrôles tous les jours, là, de l'hygiène. Moi, j'ai des boulangers qui m'appellent de toute la France. Alors, un coup, c'est la farine qui est explosive, un coup, c'est ci, un coup, c'est là. Mais il faut qu'ils arrêtent, quoi. Je veux dire, ils sont en train de tuer l'artisanat. C'est quoi, ce gouvernement?
Oui, mais David.
Le bordel dans l'hémicycle, j'ai assisté la semaine dernière à une délégation du collectif, mais on a honte de notre pays. C'est télévisé, on dit aux enfants d'être respectueux, on dit d'être sur les terrains de foot, de vivre ensemble. Mais les LFI et la gauche, ils ont foutu un bordel, mais j'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Je croyais pas mes yeux, quoi. C'est honteux des politiques comme ça, il ferait mieux de rester chez eux.
Mais David, vous avez raison, on marche sur la tête parce que non seulement on a un gouvernement qui est lâche et on a un gouvernement qui n'a aucune conviction. Politiques de premier plan sont payées avec nos impôts et ils oublient qu'ils sont nos salariés. Donc je suis désolé, si la majorité des Français veulent travailler, ils doivent s'exécuter. Lorsque ces gens, ils accèdent au pouvoir, eh ben ils pensent que nous sommes à leur service. Ils doivent nous servir. Et je pense que même les pays autour doivent bien se moquer de nous parce que c'est la première fois que l'on voit que, comme ça, des salariés vont se battre pour travailler. Mais c'est une honte totale.
J'ai une question à poser, moi, à David.
Oui, s'il vous plaît, oui.
Ouais. Est-ce que vous avez beaucoup de délégués CGT dans votre profession ?
Alors, sûrement. Alors, nous, alors, ça dépend. Nous, on est des petites structures. Hein. On est souvent des entreprises de moins de 10 salariés. Donc, il n'y a pas spécialement de syndicats.
Il n'y a pas de syndicats. Non, mais parce que voilà. Je vois la CGT se mobiliser et je me demande, mais à quel point est-elle représentée chez indépendants artisans? Mais la réponse.
Ils se sacrifient pour tout le monde.
Non, mais la CGT, c'est avant tout les fonctionnaires et les cheminots. Donc, voilà. Ils sont sur la CGT très peu présente. Donc, est-elle vraiment la bonne porte-parole de ceux qui travaillent dans ces métiers-là? C'est la question que je voulais.
David, on va continuer la discussion et je vous remercie d'avoir été avec nous. Ce que vous avez dit, donc le 2 mai, attention, il y a une journée d'action qui se prépare. Voilà, c'est ce que vous me disiez. On arrive, David.
Et moi, j'appelle le ministre Le Cornu à nous mettre autour de la table, le collectif. Il faut qu'il entende tout le monde. Il ne faut pas entendre que les syndicats parisiens. Nous, on vient du terrain et on est des chefs d'entreprise tous les matins dans notre entreprise.
N'oublions pas quand même que M. Attal était Premier ministre, il ne l'a pas fait. Hein. Et quand Macron avait sa majorité...
Il ne faut pas être dupe de la petite manip politique.
Voilà. Et quand Macron avait sa majorité absolue pendant ses 5 premières années, il n'a rien fait. Exactement. Donc maintenant, ils se réveillent alors qu'ils ne peuvent plus rien faire. Et ils disent, oh là là, vous vous rendez compte, on ne peut faire aucune réforme. Vous avez eu 7 ans pour les faire.
David, je vous remercie. Dans un instant, on sera avec Vincent. Vincent va nous emmener du côté du Cher, des Deux-Sèvres. On va aller dans le Cher. Avec Vincent, donc il est boulanger et il a 15 salariés. Donc on imagine bien qu'il faudrait faire tourner la boutique, comme on dit. Voilà, on va continuer. Le 1er mai de la reculade. Est-ce que pour vous c'est un gouvernement dégonflé? Vous venez en discuter avec les GG au 32-16. On est en direct sur RMC la radio, RMC Story la télé. Il est 9h20.
RMC 9h midi. Les grandes gueules. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Vous êtes sur RMC, la radio, RMC Story, la télé. On discute, on débat ensemble, bien évidemment, de 9h à midi. Ce sont les GG, les grandes gueules, avec Abel Boyer, avec Antoine Dierce, avec Barbara Lefebvre. Et on s'étonne de cette reculade du gouvernement. Enfin, on s'interroge plutôt sur la reculade du gouvernement concernant le 1er mai. Vincent veut donc en parler avec nous. Il est du côté du Cher. Bonjour, Vincent.
Oui, bonjour. Bonjour, les grandes gueules.
Bonjour.
Tout d'abord, bonjour à Monsieur Marchal. Bonjour à Monsieur Truchot. Bonjour à Barbara. Bonjour à Abel. Et également, bonjour à Antoine.
Merci, bonjour. Il est très poli, Vincent. Il dit bonjour comme ça à tout le monde.
Allez-y.
Oui, et quand on rentre dans votre boulangerie, c'est un bonjour aussi.
Bien sûr, c'est un métier de commerce et on se doit de dire bonjour à chaque client.
Vous avez bien raison.
J'ai une pensée très particulière pour mes trois grandes gueules préférées qui sont quand même M. Consigny, M. Giraud et puis M. À Toulon. Pense également, juste pour finir, à Monsieur Maillot. Voilà, parce que
petite confidence. Ouais. Après l'émission, nous partons déjeuner avec Jacques Maillot.
Olivier, on déjeune avec Jacques.
On saluera de la part de. Je pense qu'il écoute parce qu'il écoute tous les matins.
Alors, mon cher.
Alors maintenant,
Monsieur le boulanger.
J'ai un coup de gueule à passer. Nous sommes maintenant à 15 jours du 1er mai, et ça fait un an, voire un an et quelques mois qu'on tourne en rond avec cette histoire-là. Et puis, quelle considération. Moi, je pense d'abord à mes salariés. Quelle considération.
Combien de salariés,
J'ai 15 salariés.
D'accord.
15 salariés. Aujourd'hui, le premier mai tombe un vendredi. Voilà. Quoi qu'il en soit, moi, j'ai quelques salariés, et puis pas tous, et puis c'est pas bien grave. C'est comme
donc
ça.
Donc, vous n'êtes pas ouvert le 1er mai, alors?
Eh bien, écoutez, moi, je souhaitais ouvrir, mais avec mon épouse, avec ma famille.
C'est ça.
Et puis, j'avais quand même demandé à quelques salariés s'ils souhaitaient effectivement travailler.
Il faut reconnaître que c'est assez paradoxal et baroque. C'est-à-dire qu'on peut faire, travailler la famille comme des salariés, mais les vrais salariés n'ont pas le droit de travailler. C'est là où c'est quand même assez baroque.
T'as le droit d'exploiter ta propre famille.
C'est ça. Allez-y, Vincent,
pardon. Je suis incapable de gérer mon entreprise comme l'État gère aujourd'hui, effectivement, ses priorités. C'est pas à 15 jours que l'on va dire à des salariés on vient ou on vient pas, quoi, par rapport à un planning.
Mais pourquoi vous ne décidez pas collectivement d'y aller? J'ai vu que c'était 750 euros par salarié. Bon, c'est cher. Il peut y avoir un pot commun pour
toi, tu serais prêt à donner dans une période.
Est-ce que vous pourriez le faire?
En toute honnêteté, oui, mais je peux pas me permettre de prendre des amendes. Donc aujourd'hui, si j'y vais, c'est avec mon épouse qui aura déjà fait sa semaine et avec mes deux enfants, quoi. Aujourd'hui, mes deux enfants, quoi, qui sont pas boulangers, pâtissiers, quoi.
Mais ce,
parce que
ce que je veux dire, c'est
permettre de faire tourner mon entreprise avec des amendes, c'est pas possible.
Mais, bien sûr, mais pas au niveau individuel, mais je veux dire, il y a des organisations d'artisans, l'UDP, le représentant des différentes organisations de boulangerie qu'on entendait tout à l'heure, et vous vous dites, ils vont pas pouvoir mettre des amendes à tout le monde. Il y en a pas beaucoup des inspecteurs du travail qui vont travailler le 1er mai. Ben on y va.
Alors, on n'est pas dans l'idée de faire du buzz, hein, qu'on soit clair. Moi, je suis pas dans l'idée de faire du buzz. Je suis dans l'idée de rendre service à mes clients, et puis apporter entre guillemets du chiffre d'affaires sur une journée de plus. Et derrière ça, c'est un vendredi, quoi. On travaille le samedi. Ça fait pas rêver. On n'est pas des administrations. On va pas pouvoir prendre un pont. Les salariés, ils regardent ça entre guillemets. Moi, ça va être mon vendredi de congé. Je reviens le samedi, quoi.
Oui, bien sûr.
C'est pas possible. Mais on marche sur la tête. Aujourd'hui,
Vincent, ce qui est quand même bizarre avec cette histoire, c'est que accorder ce droit n'enlève rien aux autres. C'est-à-dire que c'est une liberté qu'on va accorder à certains salariés de travailler ce jour-là et de mettre un peu de beurre dans les épinards, ça n'enlève rien aux autres. Donc en fait, quand on dit ça remet en cause un acquis social, non, ça n'empêche pas que la majorité des Français continueront de ne pas travailler le 1er mai.
Il ne t'a pas échappé qu'en face, nous avons des gens qui ne sont pas dans la logique purement factuelle et économique que tu viens de décrire. Pour eux, le travail est une aliénation. Donc voilà, pour eux, de toute façon, travailler, c'est aliéner l'humain, et le patron est une ordure, c'est un bourgeois, c'est la classe dominante.
Le boulanger.
Mais écoutez, relisez Marx.
Les boulangers sont pas des bourgeois, les boulangers, ils vivent comme leurs salariés.
Dit Karl Marx? Il dit que c'est la lutte des classes, qu'il y a deux classes ennemies, la bourgeoisie et le prolétariat, et que le rôle du prolétariat, c'est de renverser la bourgeoisie qui aliène l'humain, qui transforme l'ouvrier en une machine. Ces gens-là, que vous avez en face de vous, sont restés bloqués en 1848, le manifeste du Parti communiste de Karl Marx, que je fais en ce moment étudier à mes élèves de 4e, parce qu'on est dans l'histoire de l'industrialisation, on en est toujours là. Pour eux, travailler, c'est aliéner l'être humain. Tu leur parles de liberté, tu leur parles de choisir de travailler.
Pas, on parle pas du grand capitalisme,
mais
on parle
si, pour
de
ces
fleuriste,
gens-là, mais pour Madame Binet.
Du fleuriste, du mélange coin, tout, mais c'est un salarié ou un salarié.
Pour Binet, pour Léo Mans, pour tous ces gens, pour Adrien Cloué, pour tous ces grands humanistes de la LFI, le travail, c'est l'aliénation. Les mêmes qui, on en parlera tout à l'heure, je pense, appelle Uber Eats pour se faire livrer par un pauvre gars qui pédale 63 heures par semaine. Mais c'est pas grave, c'est l'aliénation, le travail. Donc ces gens-là ne comprennent rien à l'économie. Et voilà, s'il te plaît, Javier, viens.
Alors, je voudrais simplement reposer une question à Vincent par rapport à ce qu'on disait avec Antoine.
Si je peux me permettre, je ne me mettrai pas dans l'illégalité.
Voilà.
Je ne me mettrai pas dans l'illégalité. Pour la bonne et simple raison que je suis un patron qui respecte ce qu'on me dit de faire, demande de faire, je ne me mettrai pas dans l'illégalité.
J'entends, mais c'est bien souvent la France trop bien élevée qui paye.
Ça ne fait pas rêver des salariés d'avoir un vendredi fermé et de revenir le samedi matin, parce qu'on ne peut pas se permettre. Mais maintenant, ça permettrait à chacun d'apporter un petit peu du beurre dans les épinards.
Bien sûr.
C'est quoi? C'est travailler de 7h à midi, quoi. 7h midi.
Vincent,
pour avoir une journée de salaire en plus pour partir le week-end du 8 mai, le week-end de l'Ascension. Et aujourd'hui, on m'a interdit de le faire parce que je n'ai pas le droit.
Eh bien, écoutez, Vincent, restez avec nous pour écouter le témoignage
de Cédric. La liberté, le combat
de Cédric, il est dans le Val d'Oise, il est fleuriste. Bonjour, Cédric.
Bonjour, les GG, bonjour à toutes. Bonjour.
Vous êtes fleuriste, c'est-à-dire vous avez donc un magasin, une boutique de fleurs, c'est ça?
Exactement.
Qu'est-ce que vous faites le 1er mai avec vos salariés? Alors, dites-moi. Alors,
moi, c'est un petit peu spécifique parce que c'est le magasin de ma conjointe. Moi, j'ai une autre société à côté, mais on s'aide énormément parce qu'on est dans le même domaine. Et ben, nous, ce qu'on va faire, on ne sait pas en fait. On attend de voir parce que ma conjointe a un statut de gérant de salarié. Donc, grande question, c'est est-ce qu'on va pouvoir même elle la faire travailler? Pour nos salariés, je pense que on va pas les faire venir.
On n'a pas le droit.
C'est ça. Donc c'est pas dramatique, on va se débrouiller. La question c'est pour ma conjointe. Moi je vais venir quand même. C'est pas voilà.
Vous avez le droit. Votre
conjointe, c'est bon. Est bon. Vous et votre conjointe.
C'est aberrant.
Bon.
Si le salarié n'a pas le droit. Mais
si vous avez des enfants qui traînent, le travail des enfants, pourquoi pas. Si c'est vos enfants, ça compte pas.
On essaye, mais il est pas.
3 ans.
Allez-y quand même.
C'est encore un peu compliqué.
Et pardon Cédric, ce qui est quand même étonnant chez les fleuristes, c'est que ce jour-là, donc c'est la vente du muguet, donc je peux venir mettre un stand devant votre boutique pour vendre du muguet, mais vous n'avez pas le droit d'ouvrir avec des salariés.
Ah mais c'est exactement ce qu'on va faire en fait. C'est ce qu'on va faire.
Vous allez mettre un stand aussi.
De toute façon. On est en discussion avec notre maire actuellement pour savoir si un arrêté sera mis en place pour d'autres vendeurs à la sonnette. Mais dans notre cas, s'il n'y a rien qui est mis en place, c'est très simple. Je me mettrai 3 mètres à côté de ma porte et on va vendre comme ça.
Bah voilà.
Pourquoi
vous allez vous transformer en vendeur à la sauvette.
On crée en France
du vendeur à la sauvette.
C'est pas grave. C'est ce que j'expliquais à votre standardiste tout à l'heure. Je disais, mais moi, j'ai commandé mon Bugay il y a 15 jours, 3 semaines, voire même un mois.
Et il est payé.
Je vais pas appeler mon fournisseur de se dire, bah, t'es gentil, en fait, mais le Bugay, bah, finalement, cette année, je vais peut-être pas te le prendre. Bah non, ça marche pas. Il y a 3000 euros de Bugay à l'achat. Je peux pas me permettre de perdre 3000 euros de marchandises.
C'est l'aberration, Cédric. On va continuer d'en discuter. On va aller dans le Calvados avec Clément, qui est responsable de laboratoire. Bonjour, Clément.
Bonjour.
Vous avez entendu Cédric qui nous dit je vais mettre un stand, vous savez, je vais mettre un tréteau devant mon propre magasin de fleurs. Vous avez entendu Vincent dire moi, ma boulangerie, je vais pas pouvoir faire travailler mes 15 salariés, mais qui sait, avec ma femme, on va peut-être faire tourner la boutique.
Je fais venir mon cousin.
C'est ça, voilà. qu'est-ce que vous en pensez, Clément?
Eh ben moi, ce que j'en pense, c'est que je suis un peu en opposition avec ce qui se dit un peu sur le plateau.
Allez-y.
Avec les intervenants aujourd'hui. Déjà, bonjour à tous.
Bonjour.
J'aimerais faire une petite intervention en fait sur le fait que le 1er mai, c'est avant tout une journée historique. Pourquoi elle est historique? Ça devrait tenir un peu compte avec ce que Barbara pense. Et puis...
Antoine,
excusez-moi, je suis un petit peu
ému.
Un petit peu ému parce que le 1er mai, c'est quelque chose qui touche particulièrement ma famille. J'ai des anciens qui se sont battus pour ça. Mm-hmm. Et voilà. Donc,
pardon, expliquez-nous ce que ça représente pour vous le 1er mai, parce que là j'ai entendu des grands mots, mais concrètement,
et puis comment on s'est battu pour ça aussi?
Oui, on s'est battu comment pour le 1er mai, c'est-à-dire?
À quel moment on s'est battu pour le 1er mai?
Bah, le 1er mai, ça reste quand même moralement une histoire de lutte sociale, de revendication.
Mais vous dites, dans ma famille, j'ai des gens qui sont battus le 1er mai.
Il y a des gens que ça dérange pas d'abroger le 11 novembre. Il y en a qui sont morts pour le 11 novembre.
Comment ils se sont battus pour le 1er mai? Parce que
ils ont fait partie de la classe ouvrière et ils se sont battus pour ce type de combat.
Ah oui, d'accord, combat, mais pas spécialement pour le 1er mai.
Non, pas spécialement le 1er mai, mais vous avez bien compris ce que je voulais dire. Donc,
Clément, excusez-moi, vous parlez de l'aspect historique et de la victoire sociale que ça représente. Ça, personne ne le remet en cause. Mais quand l'on obtient un acquis social, c'est pour avoir la liberté d'abord. C'est pas pour avoir une nouvelle interdiction. Donc, le projet, c'est sur la base du volontariat. Et là, ce qui se passe avec des personnes comme vous, comme les syndicats, vous mettez une épée de Damoclès sur tous les petits artisans et commerçants qui sont mis sur le même statut que les patrons du CAC 40 qui seraient tous des enflures. Déjà que les personnes sont écrasées par des taxes et là, on empêche à des gens qui veulent travailler de travailler. La personne qui veut fêter... Moi, je travaille pas le 1er mai, personnellement, parce que je respecte justement cette avancée sociale. Mais je ne me dis pas que je vais interdire me disputer avec quelqu'un qui veut travailler, qui a besoin de gagner sa vie, qui peut être payé double dans un pays vraiment où beaucoup de Français sont en crise sociale. C'est la liberté qui prévaut sur toi.
Je ne remets pas du tout en faute. Au contraire, j'ai plutôt tendance à croire qu'économiquement, on aurait un gain pour chaque salarié, mais à court terme seulement. Et à moyen long terme, je doute que ça puisse avoir un effet dans le temps.
Mais il n'est pas question de faire travailler tous les Français le 1er mai. C'est là où, excusez-moi. Oui, mais on a toujours une crainte. Donc dans ce cas-là, on ne fait rien. Parce que si on a la crainte de tout, on ne change jamais les choses. Simplement, on s'est aperçu déjà qu'il y avait une concurrence déloyale. C'est-à-dire qu'un restaurant ou un fast-food pouvait ouvrir ce jour-là. Et le boulanger qui vend des sandwichs et des salades, il ne pouvait pas le faire. Donc, alors que c'est effectivement un jour où les gens se baladent dans les villes et autres, ont du temps et peuvent effectivement faire des courses. Donc, déjà, ça me paraît complètement absurde. Ou alors, moi, que Mme Binet demande la fermeture des restaurants si elle veut aller au bout de sa logique. Mais elle va même pas au bout de cette logique. Donc c'est là où ça crée des
situations. On a un dernier témoignage qui va nous amener du côté de la Gironde, après le Cher, le Val d'Oise, le Calvados, la Gironde, avec Hervé qui est chef d'entreprise. Bonjour Hervé.
Allez, je vous prends 30 secondes.
Prendre Hervé. Comment va?
Bah écoutez, il fait beau. Et puis nous à Bordeaux, on a plein de victoires sportives, donc on est à fond. Et puis le 1er mai, ceux qui sont sur la côte, ils sont en zone côtière, en zone franche, donc eux ils pourront bosser. Et puis ceux qui sont à l'intérieur des terres, ils seront peut-être obligés de fermer. Je fais une parenthèse de deux secondes.
Autre dérogation.
Enfin, honnêtement, j'ai voté au centre toute ma vie. J'ai voté Macron une fois, j'ai voté Macron deux fois. J'ai mal au derrière, je vous cache pas. Et là, on me présente Édouard Philippe. Moi, j'ai juste envie d'une chose aujourd'hui.
Lui aussi.
C'est d'aller Rassemblement National parce que c'est ce que les gens vont faire. Aujourd'hui, ils vont en fait, ils attendent que ça se passe, ils vont se frotter les mains et ils vont récupérer la casse de tous ces gens qui sont insatisfaits. Moi, j'étais plus ou moins satisfait. Aujourd'hui, je le suis plus. D'accord? Les syndicats aujourd'hui, ils représentent qui? Ils représentent les salariés de l'État et ils représentent des salariés dans les grandes entreprises où je vous cache pas que c'est bien négocié. Les gens, la plupart du temps, ils bossent pas le 1er mai. Les cheminots qui bossent le 1er mai, je pense qu'ils doivent être dans d'excellentes conditions. Et ensuite, la gauche, fort, ils représentent quoi? 4%, 5%, 6%, rien. Et ils viennent aujourd'hui. Alors, les macronistes, désolé, mais vous avez pas fait le boulot et moi, je suis un déçu. Et aujourd'hui, en plus de ça, vous n'êtes pas capable de mettre le point sur la table en disant « on va le faire quand même pour les gens, les derniers gens qu'on est censé représenter ». Eh ben, c'est pas grave, ne nous représentez plus, on va être représenté par d'autres, et d'autres qui, dans un an, seront à 40% au premier tour, et là, vous allez vous dire « ah, qu'est-ce qui se passe? On fait un fonds anti-républicain ?» Eh ben non, ce sera trop tard.
C'est
et on
juste.
Passera à autre chose. Voilà.
Coup de gueule d'Hervé. Vincent, c'est le boulanger, possible. Vous voulez rajouter quelque chose, Vincent? Je vous en prie.
S'il vous plaît. Laissez-moi défendre nos métiers d'artisanat. Les boulangers, les pâtissiers, les bouchers, les charcutiers. Tous ces métiers aujourd'hui sur lesquels on tape dessus et à quels on interdit de travailler. On est les seuls à recevoir des amendes avec les fleuristes. Mais laissez-nous bosser, laissez-nous gérer nos entreprises. On va crever. Mais laissez-nous, s'il vous plaît.
C'est l'artisanat. Deux coups de gueule, celui de Vincent pour terminer, l'artisan boulanger, celui d'Hervé, le chef d'entreprise. Il ne faudra pas s'étonner de la gifle électorale annoncée ensuite en 2027. Travaille le 1er mai, le gouvernement dégonflé. Merci à tous pour avoir été en direct avec nous. Gouvernement dégonflé, vous dites clairement, à 84%. Dans un instant, suite des GG, les grandes gueules sera le « on s'en fout, on s'en fout pas ». Restez avec nous sur RMC et RMC Story.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Grande gueule, 10h moins le quart sur RMC, la radio RMC Story, la télé. Antoine Diers est des nôtres, le consultant juridique, l'homme de Dunkerque. Nous sommes avec l'éducateur Abel Boyi et puis Barbara Lefebvre nous accompagne, enseignante en histoire géographie. On y va pour le « on s'en fout, on s'en fout pas ».
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout, on s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Inès Saints.
Bonjour Alain, bonjour les GG, bonjour à tous. Donald Trump poste une photo de lui en Jésus-Christ avant de finalement la retirer. Est-ce qu'on s'en fout pas, Barbara?
Non, on s'en fout pas.
Abel?
On s'en fout pas.
Antoine?
On ne s'en fout pas.
Oui, le président américain a vivement critiqué le pape Léon XIV hier sur son réseau social. Le pape qui s'est exprimé contre la guerre en Iran. Et sur cette image générée par intelligence artificielle, Donald Trump apparaît comme l'incarnation du Christ. Il est drapé d'une toge rouge et blanche avec un halo de lumière dans les mains. Il pose sa paume sur le front d'un homme alité, entouré de personnes qui le regardent. Avec autour évidemment les symboles patriotiques américains, hein, la bannière étoilée, un avion de combat ou encore la statue de la liberté. Alors jugé blasphématoire et antéchrist, hein, carrément, Donald Trump a finalement retiré cette photo face à l'indignation de la droite religieuse. Il explique en fait que l'image était censée le représenter en médecin. Bon bah alors là...
On y est avec la Croix-Rouge, c'est ce qu'il écrit.
C'est un flop. Barbara, pourquoi tu t'en fous pas?
Oh là là, ah, il est en roue libre. Moi, franchement, mais moi, ça me fait rire. Alors, qu'est-ce que vous que je vous dise? Parce que par ailleurs, je pense qu'il a une politique dans certains domaines qui est tout à fait rationnelle. Donc moi, je ne crois pas qu'il soit complètement irrationnel. Mais je pense que au niveau de l'image et de l'utilisation des réseaux sociaux, qui sont quand même le déversoir de la débilité générale, eh ben, je pense qu'il se met à la page de la débilité générale et donc il fait n'importe quoi.
Oui, mais le pape est pas débile, enfin.
Alors le pape n'est peut-être pas débile, mais le pape est un homme politique par contre.
Ah bon?
Donc oui, je suis désolée. D'abord, premièrement, le pape est un chef d'État. Deuxièmement, le pape s'exprime sur des questions éminemment politiques et a des points de vue politiques, fait de la diplomatie aussi. Donc par
quelle est son influence politique?
Peu importe, mais par contre, le fait qu'on puisse critiquer les positionnements politiques du pape, ça je vois pas en quoi c'est dérangeant. Par contre là, antéchrist, mais Trump c'est un clown, c'est clownesque,
c'est ça le problème. Ouais, c'est un gamin,
mais non, par ailleurs, il est pas entouré de clowns. et moi qui savent très bien ce qu'ils font. Ah bon, quand même, non, bah oui, Marco Rubio et Gigi Venn, c'est pas des clowns.
Oui, ils sont pas d'accord entre eux. Parce qu'il a quand même une base, notamment les chrétiens évangéliques et même la base chrétienne qui est extrêmement choquée.
C'est pour ça qu'il a retiré son tweet d'ailleurs.
Bah oui, il a retiré. Là, il a fait marche arrière. Et comme c'est quelqu'un qui est très orgueilleux, qui ne reconnaît jamais lorsqu'il fait mal une chose parce qu'il a été formé comme ça, il nous prend en plus pour des cons en disant qu'il incarne peut-être Dr House en rouge, je ne sais pas
c'est
quoi.
C'est hypocrite.
Mais là, il a été très con. Et moi, en tant que chrétien, je n'aime pas le blasphème. Bon, je vais pas être choqué, ça va pas m'empêcher de dormir. Mais il a fait une faute politique qui risque de lui coûter.
Il se prend pour le Christ.
T'aimes pas qu'on rigole avec les religions.
J'aime pas. Moi, je respecte le droit. Même Charlie Hebdo, je respecte. Moi, je suis pour que Charlie Hebdo continue. Mais j'ai horreur que l'on insulte la religion chrétienne. Ah, ça,
on
c'est
a
sûr.
Le droit. Hein.
Mais on a le droit. Mais je ne vais pas. Ça va pas m'empêcher de dormir.
En
ça,
c'est venant d'un président, c'est encore plus choquant.
Ah oui, bah il est con.
Je parti sur l'électorat.
Je lisais il y a quelques jours un article qui est passé. Je suis désolé, je me souviens plus de l'auteur qui expliquait que en fait on essaye d'analyser Trump avec notre regard hyper rationnel d'européens qui réfléchissent la politique, qui la pensent. Et en fait, Trump fait tout autre chose.
Donc ça veut dire
Trump,
qu'il est rationnel.
Il sature l'image, le son, il exagère, il gueule à l'américaine. Et en fait, c'est pour ça qu'on comprend pas. Mais ça lui a permis d'être réélu. Il va peut-être un poil trop loin. Là, je pense qu'il a poussé sa méthode un poil trop loin. Mais je suis pas sûr que ça lui coûte tant que ça. Ce sera oublié dans 48 heures.
Mais bien sûr.
On est dans cette époque-là.
Mais
on est dans cette époque-là.
Exactement.
Et il aura hurlé un autre truc ou publié un autre truc qui fera halluciner tout le monde pour faire oublier ça. Donc, si on essayait de plus se faire avoir sur la forme, qui est uniquement de la forme Trump, pour essayer de comprendre vraiment les enjeux sous-jacent de la politique trumpienne, on serait peut-être un peu meilleur dans l'Union européenne.
Bravo, là, l'ancien directeur de la CIA dit qu'il est dérangé. Hein. Mais aux États-Unis aussi, ça fait des remous.
Moi, je ne crois pas du tout qu'il soit dérangé. Moi, je pense qu'il a une ligne politique et que, par contre, c'est exactement ce que dit Antoine, il sature avec le grand n'importe quoi général. Excusez-moi, je crois que dans le monde, il y en a d'autres des clowns. Et le pire, c'est les clowns qui se prennent au sérieux. Et je crois que nous, on en a en France.
Si
les clowns
qui se prennent au sérieux.
Là, et qui sont aussi un peu tac-tac là-haut. Sur Donald Trump, ce qui commence à énervé même son entourage, il y a des élections qui se profilent.
Oui, il va les perdre.
Et que là, voilà, bien sûr. Mais si
tous les présidents les perdent, les élections interminables.
Peut-être, mais après, tu peux essayer de limiter la défaite et de rester sur ta base.
Oui.
Or là, si tu vas à force de faire un peu n'importe quoi, notamment, tu as raison, sur les réseaux sociaux, etc., les clowneries, ça commence à le fatiguer. Ça commence à fatiguer.
Oui, mais c'est pas sur ça qu'il perdra les élections. Il perdra les élections sur le chômage, le pouvoir d'achat des Américains,
bien sûr.
Le prix du carburant.
La crise du carburant. Je pense que ça a plus d'impact.
C'est un tout. Voilà, ça s'inscrit dans un tout là aujourd'hui qui agace ses proches.
TGG, l'ex-PDG de Lafarge, condamné à 6 ans de prison ferme avec incarcération immédiate. Le cimentier français est reconnu coupable de financement du terrorisme pour avoir payé des pots de vin à l'État islamique entre 2013 et 2014. On s'en fout ou pas, Barbara?
Non, on ne s'en fout pas.
Antoine?
On s'en fout pas.
Abel?
On s'en fout pas.
Ce sont 8 anciens responsables au total qui ont été reconnus coupables hier par le tribunal de Paris de financement de terrorisme, donc pour avoir payé des groupes djihadistes afin qu'ils laissent tourner une usine au milieu de la guerre en Syrie.
Tu as dit, ils ont payé des groupes djihadistes. Et c'est là, où c'est toute la difficulté. C'est le cœur de l'affaire. Quand on lit financement du terrorisme en Syrie, on a l'impression que les mecs en costume de la cimenterie, ils sont arrivés devant des grands barbus avec des turbans, amener des mallettes en disant, ça va bien se passer. C'est pas ça qui s'est passé. La justice retient le financement du terrorisme parce qu'ils ont payé à des checkpoints pour faire arriver le camion à la cimenterie, parce qu'ils ont eu un accord commercial pour acheter des matières premières avec une société qui était proche potentiellement du mouvement terroriste, etc. C'est une succession de petites choses qui amène la justice à dire « Vous deviez le savoir, vous avez financé indirectement le terrorisme ». Alors, évidemment, moi, vous savez que je suis particulièrement opposé au terrorisme islamique. Je pense qu'ils sont allés trop loin, qu'ils devaient comprendre que l'État français aurait dû leur dire « Arrêtez, là, vous financez trop de choses ». Mais la façon dont on le dit, financement du terrorisme, on a l'impression vraiment que les mecs ont
filé les mallettes au barbu. Parce que quand même, ils ont ferme. Et mandat de dépôt, c'est-à-dire que le dirigeant est parti directement.
Juste, il a deux choses. Je voudrais poser une question.
Ils ont fait appel.
Est-ce que aujourd'hui, la règle de l'exécution immédiate devient la règle? Est-ce que c'est vraiment la règle? Parce que maintenant, si avant même de faire appel, on met les gens en détention, y compris des gens qui ont dans les 70 ans, 80 ans,
surtout
etc., qui ne sont pas prêts de s'enfuir. On n'a pas affaire à la DZ de mafia ou à je ne sais qui. Moi, je commence à me poser des questions aussi sur le point de vue aujourd'hui de certains juges qui vont considérer que l'incarcération, par ailleurs, la justice, dans le prononcé du jugement a duré 4 heures. 4 heures. C'est-à-dire qu'ils ont poireauté quasiment 3h30 avant d'entendre leur sanction. Donc ça s'appelle le supplice chinois. Hein. Bon, c'est très bien, la justice a choisi.
Oui.
La choisie, sa justice, de passer 4 heures pour faire un prononcé. Dans ce prononcé, elle dit faux débat sur un point qui me semble être un point essentiel. Que savait l'exécutif à l'époque ? La DGSE, ça a été prouvé, la DGSE connaissait les activités de Lafarge et avait même demandé à Lafarge de continuer parce que Lafarge, dans une certaine mesure, aidait la DGSE à avoir du renseignement. Ça veut dire que l'exécutif de l'époque, 2013-2014, était au courant des activités de Lafarge. J'ai pas dit complice, je dis simplement que Lafarge travaillait. Ils avaient investi 680 millions dans cette usine. Je pense que eux, ils l'avaient en travers de la gorge. Ils voulaient pas renoncer au profit qu'ils pouvaient en tirer, ce qui est tout à fait inacceptable parce qu'il y avait l'État islamique. Mais l'État, l'exécutif, était au courant de ce que faisait Lafarge et ils sont pas venus le dire au tribunal. Et le tribunal n'a pas considéré que c'était un facteur qui pouvait être un facteur amenuisant les peines. C'est bien. Quand même bizarre tout ça, quand même.
Tu m'enlèves les mots de la bouche et je pense qu'il y a une hypocrisie parce que aujourd'hui, je pense qu'il faut accepter cette réalité diplomatique que l'on peut condamner, mais elle existe. Des chefs d'entreprise couverts par les exécutifs, des présidents, discutent, traitent avec des organisations pas très catholiques, entre guillemets, pour les intérêts français, comme ça se fait pour tous les pays du monde. C'est-à-dire que ce monsieur n'a pas financé un groupe terroriste pour aller commettre un attentat. Donc on sait très bien qu'on discute avec des personnes peu fréquentables pour les intérêts de son pays. C'est ça la politique. Donc si on n'est pas capable de le réaliser, dans ce cas, faut tout renverser.
Faut mettre
beaucoup de gens en prison, à mon avis.
J'aimerais qu'on sache quelle a été la réalité de la monnaie d'échange pour faire revenir nos deux otages d'Iran en ce moment. On les connaît. Hein. Il y a eu des monnaies d'échange. Il y a eu le retrait d'une plainte à la Cour pénale internationale.
Il y a eu le vote
à l'ONU pour faire de l'Iran un des membres coordonnateurs du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. La France a voté pour. Ouais. Donc moi, j'aimerais qu'on nous explique, puisqu'on donne la leçon à Lafarge. Aujourd'hui, l'exécutif, qu'est-ce qu'il a donné à la République islamique d'Iran pour qu'on ramène nos deux otages? J'aimerais bien qu'on le sache parce que on a dû bien se mettre comme des carpettes par terre face au mollah iranien et ça c'est vraiment la honte de la France. Excusez-moi. Et je suis très heureuse qu'ils soient rentrés, mais ils étaient à l'abri à l'ambassade de Téhéran, à l'ambassade de France à Téhéran. Je suis très heureuse qu'ils soient rentrés.
Ils étaient à l'abri.
Je suis très heureuse qu'ils soient rentrés, mais je voudrais bien savoir qu'est-ce qu'on a fait, hein, parce qu'on a quand même eu un bateau français qui a réussi à passer le détroit d'Ormuz, etc., etc. Bref. On s'est bien encore mis par terre pour eux.
Dans un instant, la deuxième heure des GG avec comme sujet le périscolaire à Paris, bien sûr, mais surtout plus globalement une proposition, c'est celle d'installer des caméras de surveillance dans les établissements scolaires. Alors, on peut les installer à Paris, mais on peut les installer partout en France, dans les couloirs, pour voir ce qui se passe, notamment pour surveiller peut-être les agissements de certains. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne ou mauvaise idée? Vous en discutez avec nous au 32-16. Et puis les carburants. Pour le moment, quand on regarde nos voisins européens, tous ont fait un geste pour les automobilistes. La France, pour le moment, non. La France tient bon, mais peut-être que c'est scandaleux. 32-16 pour venir en parler avec les grandes gueules. Reste avec nous sur RMC et RMC Story.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.